Nouvelle technologie, ami ou ennemi? Moteur de recherche, GPS et smartphone nous font-ils perdre la mémoire?
À l'échelle de l'évolution du cerveau humain, quel effet peut avoir l'utilisation soudaine et massive de mémoires externes comme celles contenues dans nos smartphones, tablettes et ordinateurs? Pour être honnête, c'est très difficile à dire tant ces changements sont récents. La première révolution en termes de technologie a été l'invention de l'écriture et de l'édition de livres qui a permis de stocker et de transmettre nos connaissances au fil des siècles sans pour autant diminuer la capacité de notre mémoire. Au contraire, en stockant notre savoir dans les livres, nous avons eu accès à plus d'informations et notre cerveau a ainsi pu résoudre des tâches de plus en plus complexes. Avec l'avènement du web et des moteurs de recherche, nous sommes entrés dans une autre dimension en moins d'une génération. Quasiment toutes les informations, même les fausses malheureusement, sont devenues accessibles partout et tout le temps. C'est un avantage certain si vous êtes aussi curieux que moi, vous pouvez étancher votre soif de connaissances et d'apprentissage, mais cela peut aussi s'avérer dangereux pour d'autres. Qui fait encore l'effort de mémoriser des connaissances que l'on peut retrouver en deux clics sur Google? Notre mémoire sémantique pourrait donc en pâtir. Une avancée en chasse toujours une autre, avec ses propres inconvénients. L'avènement de l'écriture, associé à la disponibilité du papier, a fait disparaître l'utilisation des astuces de mémoire que je vous donne dans ce livre audio. Mais maintenant, avec la révolution numérique, nous n'écrivons quasiment plus à la main. Or, cela nous aide à mémoriser. Par le geste, nous sollicitons notre mémoire procédurale, celle des gestes. En associant le mouvement au sens des mots, nous ancrons plus durablement le souvenir et apprenons plus facilement. Un geste différent pour chaque lettre, chaque mot, chaque phrase renforce ainsi la toile du souvenir. C'est pour cette raison que je vous déconseille d'utiliser des applications pour faire des cartes mémoire ou des cartes mentales. L'écriture manuscrite est d'ailleurs indispensable à l'apprentissage de l'orthographe chez les enfants. Pour les étudiants et les adultes, prendre des notes manuscrites permet de mieux mémoriser que de taper sur un clavier où le geste est le même pour toutes les touches. Pour ceux qui ont connu l'avant-après, n'avez-vous pas remarqué que votre écriture manuscrite s'était dégradée? Sauf pour Michel et moi. Moi, j'ai toujours très mal écrit, et Michel est médecin. Je me demande d'ailleurs encore s'il est comme ça parce qu'il est médecin ou l'inverse. Plus inquiétant, nous déléguons quasiment toutes les données que nous devons mémoriser à notre smartphone. D'ailleurs, sans lui, nous sommes perdus. Au sens figuré d'abord, plus de numéros de téléphone, de notes de rappel, d'agenda. Ce recours systématique à des notes de rappel, écrites ou vocales, affaiblit notre mémoire de travail. Mais nous sommes aussi perdus au sens propre, et c'est encore plus fâcheux. Qui se sert encore de son GPS interne, les cellules de lieu de l'hippocampe, pour trouver son chemin? Quand nous suivons le GPS de notre smartphone, nous enregistrons beaucoup moins bien le parcours par rapport à l'utilisation de repères visuels. Or, nous avons vu l'importance de l'enregistrement de nos déplacements quotidiens dans le phénomène de replay hippocampique, essentiel à notre mémoire épisodique. C'est un fait. À force de ne plus utiliser notre mémoire, nous l'affaiblissons. Le corps et le cerveau sont de bons gestionnaires. Ils ne renforcent et ne nourrissent que ce qui nous est utile. Donc charge à nous de travailler notre mémoire en reprenant de bonnes habitudes. Lâchons un peu le GPS et reconcentrons-nous sur les repères visuels pour nous orienter. Entraînons-nous à retenir au quotidien l'endroit où nous avons garé notre voiture, ce que nous avons prévu de faire dans la journée ou la liste des courses. Réapprenons par cœur les numéros de téléphone utiles ou des sujets qui nous intéressent comme des chansons, des poèmes, de la culture générale. Reprenons l'habitude de prendre des notes manuscrites. À ce jour, nous ne savons pas très bien si le fait de rechercher tout de suite une info sur Internet, que nous sommes certains de connaître, mais qui ne nous revient pas instantanément, a un impact négatif. Si une donnée vous échappe et que vous tapez tout de suite dans votre moteur de recherche de quoi la trouver, alors vous empêchez le processus naturel de récupération de votre cerveau. Vous savez, le moment où votre cerveau fonctionne sans que vous en ayez conscience. Est-ce que le renforcement mnésique sera aussi fort en cherchant sur Google que si vous aviez retrouvé l'information vous-même? Aucune étude nous éclaire. Et pour cause, Tout cela est trop récent. Mais une chose est sûre, lorsque nous aurons le recul pour analyser et comparer ces deux manières de faire sur un laps de temps significatif, il n'en ressortira pas que l'utilisation du smartphone serait meilleure. Dans le meilleur cas, ce sera équivalent. Alors, dans le doute. D'ailleurs, nous n'avons pas encore abordé le sujet le plus préoccupant. La multiplication des écrans et des notifications fragmente dangereusement notre attention.
Écran, notification, de plus en plus sollicité, de moins en moins concentré.
Il fut un temps, pas si lointain, où pour lutter contre la sédentarité et la baisse d'attention, il suffisait d'éteindre sa télévision. Aujourd'hui, nous possédons tous plusieurs écrans que nous utilisons parfois simultanément. Smartphone, tablette, ordinateur, télévision, sans parler des objets connectés comme les montres. Or, les écrans attirent irrémédiablement notre attention. Dès qu'un écran est allumé devant nous, même si nous sommes occupés, même si nous échangeons avec quelqu'un, même au restaurant, notre attention est happée involontairement. Il s'agit d'une attention réflexe, la même qui nous fait sursauter quand on entend un bruit dans la rue. Et elle n'a rien à voir avec l'attention volontaire, celle qui nous permet de nous concentrer, bien au contraire. Si les adultes peuvent contrôler ce réflexe, et encore avec difficulté, les enfants en sont incapables.
Avant 3 ans, rien de positif dans l'exposition aux écrans, même avec des programmes éducatifs. Pour câbler correctement son cerveau et développer sa mémoire, un enfant en bas âge a besoin de tous ses sens. Il doit pouvoir interagir avec un jouet, un chien ou une personne. Les sentir, les toucher, les manipuler, et pas seulement les voir et les entendre derrière un écran. Chez les petits de 3 ans et demi à 6 ans et demi, 20 minutes d'écran, télévision, smartphone, tablette, ordinateur, console de jeu, le matin avant l'école, suffisent à épuiser leurs réserves attentionnelles. C'est très peu et pourtant suffisant pour en faire des élèves agités et déconcentrés en classe. Ils ne sont plus capables d'être attentifs, alors comment pourraient-ils mémoriser et apprendre ? Ils auraient aussi 3 fois plus de risques de développer des troubles du langage et jusqu'à 6 fois plus de risques s'ils ne discutent pas avec leurs parents de ce qu'ils ont regardé. Parce qu'il n'est pas toujours facile de se passer complètement des écrans avec ses enfants, essayez d'éviter les moments clés de la journée. Le matin, car l'excitation perturbe l'apprentissage, pendant les repas, où cela favorise l'obésité, et au coucher, pour ne pas perturber leur sommeil.
Les écrans captent aussi l'attention des plus grands. Et avec l'arrivée des séries sur Netflix, Prime, Disney+, etc., un Français passe en moyenne 56 heures par semaine devant un écran. Si on enlève les 20 heures consacrées au travail ou aux études, il reste 36 heures sur le temps libre, soit 5 heures par jour. Il faut dire que les algorithmes pilotant vos applications sont conçus pour activer votre circuit de la récompense. Celui-ci s'est développé lors de l'évolution pour associer du plaisir à nos besoins fondamentaux afin que nous les répétions : manger, boire, dormir, se reproduire. Son principal messager est la dopamine, libérée dès que nous vivons une expérience plaisante. Elle est impliquée dans toutes les addictions : sucre, drogue, alcool, tabac et écran. Les jeux en ligne, les photos ou vidéos que l'on scrolle indéfiniment sur Instagram, YouTube ou Facebook, les messageries instantanées, les boutiques en ligne ou les sites de rencontres, tous ont le même but. De l'aveu même de Chamath Palihapitiya, ancien vice-président en charge de la croissance de l'audience de Facebook, à des étudiants de Stanford en 2017, « Nous avons créé des boucles déclenchant des réactions de court terme nourries à la dopamine qui sont en train de détruire le fonctionnement de la société. » Or, l'attention n'est pas une ressource inépuisable. Elle est coûteuse en énergie pour le cerveau. Pendant des millions d'années, elle a surtout servi à détecter un danger ou à rechercher de la nourriture. Aujourd'hui, notre attention réflexe ne peut résister aux notifications incessantes d'e-mails, textos, vocaux, réseaux sociaux, applications. Souvenez-vous des cases qui s'ouvrent dans votre cerveau en attendant d'être cochées. En 2019, aux États-Unis, un téléphone recevait en moyenne 46 notifications par jour, 46 occasions d'être déconcentré. Et en quelques années, cela a augmenté de manière exponentielle. Sachant que le cerveau met en moyenne 23 minutes à se reconcentrer sur une tâche, la journée ne va pas être hyper productive. Alors on se stresse pour rattraper le temps perdu. Mauvais calcul. Non, nous ne pouvons toujours pas faire deux choses en même temps. Notre cerveau n'a jamais été multitâche, le vôtre non plus. Il est fait pour être attentif à une seule chose à la fois. Les recherches en la matière montrent que les étudiants qui utilisent leur téléphone pendant les cours sont moins attentifs, ont plus de pertes de mémoire et réussissent moins bien leurs examens. En même temps, cela paraît logique. Rappelez-vous, on ne peut pas stocker et encore moins récupérer une information que l'on a mal encodée. Et il n'y a pas 40 solutions pour bien encoder. Il faut être ou attentif ou ému, positivement ou négativement. Hélas, la passion dévorante pour vos études ne va pas jusqu'à vous tirer des larmes de joie quand vous devez retenir le tableau périodique des éléments ou la liste des présidents d'Azerbaïdjan, dommage d'ailleurs. Parce qu'il n'y en a pas eu tant que ça, vous venez de perdre une occasion de briller en société. Il y a pire. Connecté du matin au soir, notre cerveau ne se met plus en mode par défaut. Or, nous avons vu l'importance de rêvasser sans rien faire durant la journée pour notre mémoire, mais aussi notre créativité. Sans compter le surplus de fatigue. Ne rien faire, c'est ne rien faire. Pas regarder des vidéos de chats ou de tiny house. Quoique cela dépend, moi en ce moment j'en cherche une, alors ça va. En bref, les études démontrant les effets négatifs des écrans sur l'attention, la concentration, la mémorisation, l'apprentissage, le langage, la réussite scolaire s'amoncellent. Mais décrocher des écrans, c'est plus facile à dire qu'à faire. On peut mettre en place quelques garde-fous. En plus de supprimer toutes les notifications comme nous l'avions vu dans l'astuce 5, vous pouvez regrouper les applications dans un seul dossier pour ne pas les avoir sous les yeux quand vous allumez votre téléphone. Vous pouvez utiliser la fonction « ne pas déranger » quand vous vous concentrez sur une tâche. Ne regardez votre téléphone qu'une fois par heure pour commencer. Ensuite, seulement quand vous avez quelque chose à y faire, mais plus par réflexe. Et si il ne devait y avoir qu'un seul moment de la journée où débrancher, c'est le soir avant de vous coucher.
Absolument, Fabien. Saviez-vous que la lumière bleue de nos écrans a la même longueur d'onde qu'une matinée de printemps ensoleillée ? Elle perturbe votre horloge biologique qui déclenche le réveil de votre cerveau au lieu de l'endormissement. Et vous connaissez maintenant l'importance du sommeil sur la mémoire. Mais est-ce que les nouvelles technologies ne pourraient pas résoudre les problèmes qu'elles ont créés ? Comment tirer parti des nouvelles technologies ?
Excellente question, Michel. Les lanceurs d'alerte, souvent issus des grandes entreprises de la tech, se repentent et dénoncent aujourd'hui les dangers du numérique sur notre cerveau. Certains développeurs se penchent sur la création d'applications au design moins attractif pour nos sens, afin de préserver nos ressources attentionnelles. D'autres développent des applications pour booster notre mémoire. Un peu de gymnastique intellectuelle ne peut pas nuire, mais n'oubliez pas qu'un écran reste un écran. Comme nous l'avons vu, l'hygiène de vie, les loisirs et les relations sociales sont des solutions plus efficaces. Chez les plus âgés, cependant, apprendre à se servir d'un aide-mémoire numérique peut les stimuler. C'est un nouvel apprentissage, une sortie de leur zone de confort et faciliter leur quotidien. Pour une étude américaine, un groupe de personnes âgées atteintes de troubles cognitifs légers a appris pendant 4 semaines à se servir de messages vocaux, comme d'un pense-bête, et d'une application de rappel, qui sonne au moment d'effectuer une tâche. Non seulement elles réalisaient mieux leurs tâches journalières, ce qui améliorait nettement leur quotidien, mais leur mémoire était aussi devenue plus performante. Autre piste explorée par une équipe de Stanford, après avoir établi un lien entre l'utilisation de 2 écrans simultanément et les troubles de la mémoire, elle a constaté que notre attention pouvait se mesurer à la taille de nos pupilles. L'idée a alors germé de développer des capteurs oculaires portables qui détecteraient notre manque d'attention et nous alerteraient en temps réel.
D'autres chercheurs, en France notamment, développent des solutions plus invasives à l'objectif plus ambitieux. Des implants cérébraux pour pallier les maladies neurodégénératives. Des expérimentations ont été menées sur des malades d'Alzheimer, à l'instar des implants développés pour réduire les tremblements dans la maladie de Parkinson.
Du côté de la Silicon Valley, le fondateur de Tesla et de SpaceX, Elon Musk, va encore plus loin. Avec sa start-up Neuralink, il développe un implant cérébral qu'il compte tester sur des humains dès cette année 2022, après avoir fait des essais parfois critiqués sur des porcs et des singes. Son but avoué, en plus d'envoyer des humains sur Mars, est de créer des hommes augmentés par la technologie via des interfaces cerveau-machine. L'idée étant de connecter notre cerveau à des unités de stockage externes. Et par la suite, pourquoi ne pas connecter nos réseaux de neurones au réseau numérique ? Extraire nos pensées et notre mémoire pour les partager en ligne ou, à l'inverse, télécharger dans nos mémoires des connaissances venues d'ailleurs. Je ne parle pas ici du scénario d'un hypothétique cinquième opus de Matrix, mais bien d'un rêve porté par un courant de pensée, le transhumanisme. À ce jour, la majorité de la communauté scientifique y voit plutôt une illusion. Il faudrait déjà craquer le code neuronal. On ne comprend pas exactement comment les neurones encodent et stockent les informations. D'autres prédisent un cauchemar pour l'humanité. Ils ont dû, comme moi, être traumatisés par Black Mirror. Astuce 13. Comment se servir des astuces pour tout ? Pour terminer cette aventure passionnante dans notre cerveau, il me semble nécessaire de répondre à une question que vous vous êtes peut-être posée. Vous avez découvert le fonctionnement de votre mémoire, ses amis, ses ennemis et des dizaines d'astuces tout au long de votre lecture. Parmi elles, il y avait les grandes astuces, que j'ai numérotées de 1 à 13. Elles sont comme des clés magiques, puissantes, pour utiliser votre pouvoir. Mais comment les appliquer dans la vie courante ? Toutes ces astuces doivent être vues comme des outils que vous allez pouvoir utiliser et adapter à vos besoins. Prenons quelques exemples très concrets. 1. Retenir un numéro de téléphone, un code, une suite de chiffres, etc. Vous allez vous servir de votre table de rappel. Astuce 12. Concernant le numéro de téléphone, comme il y a 10 chiffres que vous pouvez associer deux par deux, vous allez devoir convertir les 5 nombres du numéro en images. Pour garder ces images en tête, vous pouvez les déposer dans les 5 premiers spots de votre palais mental. Astuce 4. Mais si vous souhaitez garder le numéro de téléphone plus longtemps, pour vous en servir, vous pouvez construire une histoire avec ces images, comme dans l'astuce 8, l'agenda de votre journée. Mieux encore, votre histoire peut commencer par une image qui vous rappelle la personne à qui appartient le numéro, comme dans l'astuce 2. Comme vous le constatez, vous pouvez piocher le savoir de 4 astuces de ce livre audio pour retenir n'importe quelle suite de chiffres. 2. Retenir une formule mathématique. Une formule mathématique, vous dites ? Pas de problème. C'est exactement la même façon de procéder que pour le point précédent. À une différence près, puisque c'est une formule mathématique, il va vous manquer des images pour encoder les symboles comme diviser, multiplier, égal, etc. Prenez le temps d'augmenter votre table de rappel de quelques images associées à ces symboles algébriques. Par exemple, le signe égal me fait penser à des barres parallèles en sport. 3. Retenir les dates historiques. Qu'elles soient historiques ou simplement importantes pour vous, vous retiendrez vos dates en utilisant encore et toujours la table de rappel. Ces images vous serviront dans toutes les situations où vous aurez des nombres à retenir. C'est l'outil le plus polyvalent avec le palais mental. 4. Avoir un bloc-notes mental vierge. En parlant de palais mental, l'un des problèmes que j'ai rencontrés au cours de ma vie était de devoir stocker rapidement des informations comme une liste, un numéro de téléphone ou d'autres choses, sans encombrer mon palais mental habituel. Jusqu'au jour où je me suis aperçu que j'en avais toujours un à ma disposition, mon corps. Imaginez que votre corps possède les spots suivants. Le dessus de votre tête, le bras droit, la main droite, le bras gauche, la main gauche, le ventre, la jambe droite, le pied droit, la jambe gauche, le pied gauche. À tout moment, vous pouvez vous servir de votre corps comme la technique écrite dans l'astuce 4. Cette variante vous sera très utile quand vous serez pris au dépourvu. Un véritable bloc-notes sur pattes. 5. Pour terminer. Nous pourrions continuer à l'infini ce genre de déclinaison. J'espère que vous entrevoyez toutes les possibilités de combinaisons possibles pour apprendre et mémoriser correctement tout ce que vous voulez. Vous avez le pouvoir. Ne vous limitez jamais à mes exemples. Vous avez besoin d'apprendre de la géographie, un cocktail de mnémotechnie, de cartes mémoire, et vous êtes prêt. Vous voulez briller lors d'un entretien d'embauche? Utilisez votre table de rappel pour mémoriser les 30 choses à savoir sur cette entreprise. Vous êtes invité à une conférence importante pour votre réseau? Mémorisez tous les prénoms des personnes que vous rencontrez.